Avoigny. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Jean-Claude Michéa. Ce soir, qui n'a pas connu Montpellier dans les années 80 ?
Jean-Claude Michéa, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour le troisième épisode de cette série. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie à Montpellier. On vous doit un grand nombre d'ouvrages. Et alors, comme on a parlé tout d'abord de votre enfance, puis de votre trajet d'étudiant qui vous a conduit donc à enseigner la philo à Montpellier, ce troisième épisode, j'aimerais que l'on parle de votre transformation, si j'ose dire, mais vous allez nous préciser les choses, de votre transformation en auteur, puisque celle-ci est intervenue tardivement. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est tardivement, enfin disons à 45 ans, en 1995, et elle s'est faite un peu par hasard. Il va falloir que vous nous racontiez cela.
Alors, pour répondre à cette question, il y a un nom propre qui s'impose, c'est Alain Martin. Et Alain Martin, même encore aujourd'hui, je ne sais pas si je dois le remercier ou lui en vouloir, car c'est lui qui a donné à ma vie un cours totalement différent, dont je ne suis pas toujours sûr qu'il soit le bon. Alain Martin, c'est un personnage qui est assez extraordinaire. Il est, en lui-même, enfant d'origine populaire, lycée pour enfants difficiles de Gap, je crois, qui va rencontrer dans les années fin 50, 60, en montant de la province pour aller à Paris, les gens comme Losfeld, Pauvert, les surréalistes, etc. Ce monde des éditeurs, parce qu'il arrive sans le bac et on trouve toujours, hein, tu porteras ces livres, tu les classeras, puis finalement, il se forme une culture absolument extraordinaire. C'est un des personnages les plus cultivés que je connaisse. Il a également de commun avec moi, c'est qu'il a fait le Parti communiste, puis il en est sorti beaucoup plus tôt que moi pour rejoindre la Ligue. Et quand j'arrive à Montpellier, dans les années, donc moi, 73, il tient la librairie Maspero, qui s'appelle La Découverte, dans la rue de l'Université. Et là, on sympathise. Donc j'avais déjà une disposition très paternelle, abélienne, en hommage à mon père, à être
votre
capable...
Votre père se prénommait Abel.
Voilà, à sympathiser avec des gens qui étaient... il était trotskiste, j'étais au PC, mais bon... Moi, encore une fois, l'amitié n'a jamais recouvert les clivages politiques. Je crois que c'est une des qualités que je peux me reconnaître, qui n'est pas celle de l'idéologue. Et donc, on sympathise avec Martin. Martin est à l'époque donc à la librairie. Quand elle va fermer, il va devenir représentant chez Champs Libres, donc Lebovici, Debord. On a en même temps cette manière d'être sorti du Parti communiste à travers Debord. Donc on a des discussions enfiévrées. En plus, lui peut me raconter les dernières anecdotes du milieu situationniste, puisqu'il les a sous les yeux en permanence.
Qu'est-ce que c'est ce milieu? Racontez-nous.
Le milieu de Debord à Champs Libres, c'est... Champs Libres, c'est quand même fondamentalement Debord qui va progressivement choisir les textes à éditer. Et puis c'est un personnage fabuleux, extraordinaire. Et donc, qui a eu la chance de vivre dans le monde de l'édition aux côtés de Debord, je sais pas, c'est avoir connu Chateaubriand, Hugo, et le tout avec la politique. Martin a une chance extraordinaire. Et chaque fois qu'il revient de ses visites de représentants, il habite encore à Montpellier à l'époque, son point d'attache chez Montpellier, on a des discussions enfiévrées, magnifiques. En plus, il se trouve qu'Alain Martin est le beau-frère de Georges Champrin. Ils vivent tous les deux avec les deux sœurs. Du coup, je rencontre Georges Semprin à la même époque, et ça restera d'ailleurs une des rencontres les plus marquantes de ma vie.
Pourquoi? Rappelez-nous qui était Georges Semprin.
Georges Semprin, c'est, je dis toujours, il y a deux personnes que j'ai rencontrées en face à face et dont l'aura m'a impressionné, au sens où quand j'imagine que Sean Connery rentre dans une pièce, toutes les conversations s'arrêtent par sa manière de marcher, c'est Georges Semprin et Éric Cantona. J'ai eu la chance de rencontrer Cantona. Alors, c'est pas sur le même plan, mais Semprin dégage une aura physique absolument extraordinaire. Et surtout, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit aussi peu narcissique et en représentation. C'est le contraire du monde médiatique, universitaire et autres. Et dont la mémoire est éblouissante, mais surtout, sa vie est une série de coïncidences. Un jour, je lui ai dit, il avait beaucoup apprécié, je me demande, avec la vie que tu as eue, comment tu peux être athée? Parce que Sa vie, c'est qu'une série de coïncidences. Je peux pas parler avec Semprin, on allait en vacances ensemble. Je peux pas lancer un nom. Je lui dis un jour, tu sais, la sociologie moderne, il y a déjà dans le livre de Maurice Halbwach. Ah, Maurice Halbwach, oui, j'ai très bien connu. Il est mort dans mes bras à Buchenwald. Dans tes bras.
Et il raconte. A été déporté.
À Buchenwald, il a été l'animateur de la résistance à Franco en tant que présent clandestin en Espagne. C'est même d'ailleurs une des anecdotes qu'on a beaucoup appréciées. C'est qu'à l'époque, quand le parti l'envoyait pour animer la clandestinité, il devait fréquenter les bars ouvriers. Et un jour, il y a un ouvrier du parti qui lui dit, parce qu'il regarde pas les matchs de football, c'est un grand bourgeois, sans point d'origine. Donc le football, faut pas lui en parler. Et on lui dit, mais si tu es pas capable de parler football dans un café, la police va savoir tout de suite que tu es pas un ouvrier, que tu n'es pas, que t'es quelqu'un qui vient d'ailleurs. Alors le parti lui fait faire des stages d'initiation au football, et Semprin va devenir un des meilleurs connaisseurs du football que je connaisse, comme d'ailleurs un ami qu'on a à l'époque avec Martin Ben Saïd, hein, puisque Daniel Ben Saïd, c'est lui qui nous fera éditer le livre d'Eduardo Galeano.
Donc alors Daniel Ben Saïd est un autre oui. philosophe.
Oui, Ben Saïd, Semprin sont des gens qui sont aussi fous de football que moi à l'époque. Et donc Martin, Semprin, faut imaginer ce que c'est, mes copains situationnistes dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai quitté le parti en 76, on vit dans cette vie intellectuellement très stimulante, très agréable, et où chaque arrivée de Martin, il revient toutes les semaines ou autres, avec ça, les livres à lire, les brochures introuvables liées au mouvement situationniste, etc. Et donc Martin est vraiment un de mes 3-4 grands amis à Montpellier. Et puis, en 1988, il travaille pendant quelques temps après Champ Libre. Il a travaillé chez les éditions Luno-Asco, et Luno-Asco, en prenant sa retraite en 88, lui laisse la maison d'édition pour un franc symbolique. C'est pas mal. Et donc Martin se trouve maintenant dans sa petite maison de Castelnau-le-Lez, qui est un village, une commune qui est à côté de Montpellier, à 2-3 kilomètres, et il, dans sa propre maison, avec sa femme Françoise. Plus tard, ils seront rejoints par Frédéric Joly, qui travaillera à mi-temps chez eux, un personnage également fabuleux, extraordinaire d'intelligence, etc. Et il dit, bon, on va pas garder le nom Luno-Asco, on choisit, c'est finalement lui qui trouve Climat, c'est très bien. Et voilà, il édite Climat, donc régulièrement, on se rencontre, on parle. Mais jusqu'à l'époque, moi, il m'a fichu une paire royale. Il n'était jamais question que j'écrive quoi que ce soit. Je continuais à voir ma vie épicurienne, de joyeux célibataire, de footballeur et de prof de philo. Et tout se passait très bien. Il y avait eu une chose quand même qui s'était passée au début des années 80, vers 83, 84. J'avais écrit... Ça m'était arrivé à l'époque de temps en temps parce que c'était Yves Michaud qui m'avait demandé de le faire. Il était professeur à Montpellier, un article pour la revue Critique. Et j'en avais fait un ou deux, un sur l'espéranto, un sur un livre d'Yves Michaud précisément. Et j'écris un article sur Orwell que je viens de découvrir. C'était lié à l'espéranto. Comme Orwell avait bien connu le monde de l'espéranto, j'écris un article sur Orwell et la question du langage qui deviendra la première partie plus tard de Orwell Anarchy Story. Et là, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a de mauvais rapports maintenant avec Yves Michaud. Enfin, c'est le système fâché, pas fâché, très répandu à Paris. Showbiz, médias, etc. Hein, vous revenez d'une année sur l'autre et les gens ne se parlent plus autre. Et comme j'avais été recommandé par Yves Michaud, Piel refuse de publier mon article sur Orwell. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas un article intéressant. Pas grave, Semprin le lit et me dit « Cet article est génial, c'est la meilleure présentation d'Orwell que j'ai jamais lue, t'inquiète pas. Oh, » Semprin a une surface très importante sur le plan médiatique au début des années 80. « Je te le publie en France ou en Espagne, n'importe où. » Semprin, pendant un an, va partout avec mon article. Et là, la presse de gauche, on dit, tu comprends, critiquer le totalitarisme et l'Union soviétique comme ça, il y avait eu la nouvelle philosophie et tout, ça marche pas, parce que ceux qui étaient d'accord pour publier la critique du capitalisme acceptaient pas que l'article qui voulait critiquer le totalitarisme acceptait pas la critique du capitalisme, c'était le système BHL Goupil, et ceux qui critiquaient le capitalisme acceptaient pas de lier cette critique à la critique du totalitarisme. Semprin découvre que ce que j'ai écrit est impubliable. Apparemment, c'est prématuré, donc. Et c'est un de ses... Pour lui, ça le blesse beaucoup. Et d'ailleurs, ça l'a amené à réfléchir sur cette chose. Bon, moi, jusque-là, je disais, quand un article est bon, il sera toujours publié. Je découvre qu'on vit dans un système, édition, média ou tout, où on peut faire un texte dont je pense qu'il était bon et dont personne ne veut. C'est pas grave, je suis même plutôt content. C'est-à-dire que maintenant, à moi, les sorties, le football, la vie, le prof, et je vais passer de, en gros, les 10 plus belles années de ma vie à Montpellier, avec rien à écrire en dehors des cours pour le lendemain, la vie agréable.
Vous les écriviez?
Hein? Ah oui, les cours, par contre, ça me gênait pas d'écrire le canevas. Tous les soirs, j'écrivais un canevas. Mais alors, là, donc, c'était un plaisir.
On a les cours de Michéa.
C'est le grand drame de Maxime Catrou, mon éditrice, que le jour de ma retraite, j'ai tout jeté au feu. Et elle me dit, il faudrait que tu refasses tes cours. Je dis, ça prenait de la place. C'était pas
Vous avez tout jeté au feu?
Tout jeté au feu, ça.
Vraiment?
On vivait dans un petit appartement de 70 mètres carrés, à deux avec Linda, et donc, il n'y avait pas de place pour, déjà, on avait, avec les livres qu'elle a et les miens, on s'en sortait plus. Donc voilà. Alors j'ai des élèves qui ont gardé les plans et tout, qui m'ont dit si un jour tu dois éditer tes cours, on pourra te les donner. J'ai dit oui, enfin, espérons qu'ils me les donnent pas pour que j'ai un livre de plus à écrire, mais peu importe. 10 ans de bonheur absolu, hein, où je peux jouer 3 fois par semaine, 3 matchs de football par semaine. Le stade est pas loin de là où j'habite à Montpellier à l'époque. Heureux. Et puis, un jour, on est en 94, et Martin me dit... J'ai relu l'autre jour par hasard, et on a ces 3-4 exemplaires tapés à la machine au monde, la première partie sur Orwell, celle qui devient la première partie d'Anarchy Story. Et il me dit, mais c'est vraiment un très bon texte, il faudrait qu'on l'édite. Il dit, écoute, tu vas prendre un bouillon, qui va lire ça, je suis pas connu, un texte qui fait 50-60 pages. Il dit, non, je te dois bien ça, on discute depuis des années, j'aimerais qu'il reste une trace de toi, et puis, c'est vraiment une trace de moi. J'aurais aimé laisser une trace dans le monde du football, mais pour le reste, ça m'intéresse pas trop, me dit. Et puis, comme ça, on se vengera de Jean-Piel, qui a pas voulu éditer ce texte. Je dis, tiens, oui, après tout, c'est pas que j'ai de ressentiment, mais quand même, là, il y a peut-être un petit coin. Il a dit, non, ça intéresse personne, ben on va le sortir quand même, puis voilà, puis il prendra un bouillon, ça se vendra à 150 exemplaires, et voilà. Il me dit simplement, ajoute... quelques mises à jour, je fais la deuxième partie, un peu moins longue, ça fait un joli petit livre avec une très belle maquette représentant une photo d'une cabine téléphonique anglaise typique, Orwell Anarchy Story, il édite, et moi je dis ça y est, bon, j'ai écrit un livre dans ma vie et j'ai retrouvé ma vie très tranquille, d'ailleurs j'ai pas écrit pendant longtemps après, et... Ce qui se passe, c'est que ça commence par une critique de Jean-Luc Porquet dans Le Canard Enchaîné, très positive. Et à partir de là, le livre se vend. Bon, c'est pas grave. J'ai écrit un livre, j'en écrirai plus d'autres. Parce que même aujourd'hui, je ne me sens pas comme un auteur. Ça, je sais que c'est... Même à Flammarion, ils ont du mal à le comprendre. Et je dis toujours, c'est pas parce que t'as aidé un copain 3 fois à déménager que t'es déménageur. T'as pas envie qu'on te présente comme déménageur. J'ai écrit avec Martin, surtout qu'à l'époque, on avait un deal fabuleux avec Martin. La maison était éprouve, hein. Le climat avait un équilibre financier très précaire. Donc on disait, je t'écris le livre gratuitement. Mais en échange, pas de couverture médiatique. Donc, je n'écris plus. Sauf que en 98, c'est le 10e anniversaire de l'UNOASCO, du moment où le climat est fondé, il me dit, c'est la Coupe du Monde. Tu veux pas faire une petite plaquette sur le Galeano? On la donnera, ce sera pas un livre. Ça sera une plaquette qu'on donnera à nos plus anciens clients. Tu peux faire ça. Là, c'est un semi-piège parce que écrire sur le football, Bon, à la rigueur, j'ai pas l'impression que je suis un esclave. Donc je fais le deuxième livre, et voilà. Et je dois plus écrire. Et puis, en 99, ma voisine, Valérie Hernandez, que je salue ici, qui écrit dans la presse montpelliéraine, fait une interview pour une petite revue locale, Regard. Moi, j'ai toujours bien aimé les revues locales sur... Tu es prof à Joffre, veux-tu nous parler un peu de l'éducation nationale? Et on fait un texte assez long, assez drôle. Martin le lit, il me dit, c'est quand même vrai bête que on n'en fasse rien. Tu veux pas l'élargir un peu? C'est là que commence à s'inventer le système des scolis.
Oui, parce que il faut dire, Jean-Claude Michéa, que vous êtes donc devenu auteur avec une forme d'écriture spécifique. Je vais d'ailleurs vous laisser spécifier comment vous écrivez et comment, avec des scolis, des notes en bas de page, vous faites des ramifications.
C'est vrai que un système en ramification du texte, des notes, donne un effet en 3D qui correspond très bien à la vision dialectique des choses et donne un sentiment de relief. Et soit quand on est dialecticien, on est Hegel ou Marx et on écrit la phénoménologie de l'esprit ou le capital, soit quand on n'a pas ses talents et je les ai pas, je trouve un ersatz de présentation dialectique qui donne cette structure en 3D. Mais la raison première, c'est comme pour les interviews, elle est d'abord psychologique. J'ai un texte qui fait 60 pages. Martin me dit, tu peux pas en faire un livre deux fois plus long. Oh là là, j'aime pas écrire. J'ai horreur d'écrire une carte postale. Je fais un dessin la plupart du temps. Bref, le système des scolis, bon, on va tirer des notes. Finalement, on se trouve, toujours dans la souffrance malgré tout, mais avoir écrit un livre, ça sera l'enseignement de l'ignorance, qui a l'air d'un livre qui est d'ailleurs, je pense, l'un des livres dont je suis le plus fier, qui se vend d'ailleurs toujours aussi régulièrement, parce que c'est écrit à l'époque où Baudelot, Establet, tous les médias disent le niveau monte. Et au niveau où il monte depuis 30 ans pour la pensée Paris 8, j'ai toujours dit qu'un lycéen d'aujourd'hui devait avoir le bagage culturel d'un agrégé des années 50, si on croit Paris 8. Et à l'époque, je dis non, parce que je l'ai sous les yeux. C'est pas vrai. Et maintenant, 25 ans après, le PISA, toutes les études montrent que j'avais bien analysé ce qui se passait. Mais donc, ce livre se vend très très bien. C'est même lui, à mon avis, qui permettra à Martin, il me l'a dit souvent, d'équilibrer enfin les comptes de climat. Et voilà, j'ai dit maintenant, je t'ai fait vraiment un deuxième livre, et je suis tranquille. Et à partir de là, vous remarquerez que tous les livres écrits ont la même origine. J'écris, alors c'est à l'époque Charlie Hebdo, deux numéros consécutifs de Charlie Hebdo sur l'enseignement de l'ignorance, avec... un texte très long, hein, deux interviews donc 4 ou 5 pages dans Charlie Hebdo. Quand on a fait ça, Martin me dit, au bout d'un an ou deux, mais quand même cette interview, il me dit, allez, tu mets 30 pages de scolis et on a un livre. Ça devient un passe Adam Smith. Là-dessus, Aude Lancelin, qui est quelqu'un de vraiment admirable que j'ai connu, elle était venue me voir alors qu'elle travaillait encore comme celle qui faisait des comptes rendus dans le bulletin de la FNAC. On se rencontre à Montpellier, c'est une fille d'une grande honnêteté, très intelligente, exemplaire. Elle me dit, j'ai lu un passage d'Adam Smith, est-ce qu'on pourrait faire un entretien dessus? Ça devient Orwell éducateur. Puis après, je dis quand même, on arrête. Pendant quelques années, j'aurai la paix. Entre-temps, c'est racheté par Flammarion. J'avais envoyé à Flammarion une conférence que j'avais faite dans un cadre de stage de philosophie, est-ce qu'on peut reprendre la méthode des scolis? Et tout va recommencer. Interview, la double pensée, etc., etc. Mais je ne fais que des livres à partir d'un entretien fondé sur le thème, parce que moi, j'écris très lentement. Il me faut 4 jours pour 2000 signes. Donc là, j'ai fait pour la rentrée, pour le dernier livre.
Le loup dans la bergerie socialiste.
Voilà, un entretien Figaro, un entretien L'Obs. C'est choisi par Flammarion. Faut qu'il y ait une gauche, une droite. Chaque fois, ça m'a demandé 10 à 15 jours de travail.
Oui, parce que les entretiens oraux sont écrits chez
oral, Michéa. J'évite face à un journaliste, parce que j'en ai eu une fois dans ma vie, et j'avais décrit Laurel, et on publiait le portrait de Hardy. Ça avait rien à voir. Et donc, je dis non. Je veux contrôler pour que ce que j'écrive se retrouve à peu près, quand on lira ce qui ne m'a pas toujours protégé. Hein. J'ai même eu, pas la cruauté de citer la revue d'extrême gauche qui m'avait publié, où un paragraphe la gênait, parce que dedans je citais Podemos qui disait « Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, mais ceux d'en bas contre ceux d'en haut ». Comme c'était pas audible en France, on n'avait pas simplement censuré le paragraphe. Censuré, j'étais souvent censuré. On en avait écrit un autre en mon nom. Pour vous dire que. Mais bon, on me force à écrire des entretiens. Au bout de quelques temps, ils sont tellement longs. Quelqu'un, à Flammarion ou ailleurs, m'a dit « Avec quelques scolies, tu crois qu'on pourrait pas en faire un vrai livre ?» Et je me retrouve toujours dans la même situation.
Mais c'est quand même étonnant parce que... Jean-Claude Michéa, vous n'êtes pas, comment dirais-je, la personne la plus malléable qui soit. Pourquoi vous vous laissez faire ?
Chantage affectif. C'est-à-dire que ceux qui me mettent le pistolet sur la tempe, Alain Martin, Maxime Catroux, sont des gens que j'aime. Et là, le côté l'amitié, c'est important. C'est aussi un mauvais côté l'amitié. C'est quand même, quand l'ami insiste pour au fond un service... Il y a un moment où c'est le côté contraignant du don. Hein, une société fondée sur le don est aussi quelque chose d'épuisant. L'exemple du déménagement, c'est un copain, on peut pas le laisser déménager tout seul. Mais pour autant, je ne suis pas plus un auteur qu'un déménageur. Sauf que de service rendu en service rendu. Et puis, c'est pas que simplement du chantage affectif, entre guillemets. C'est pas simplement parce que les amis, au fond... Même si Maxime Catroux ou Alain Martin avaient vraiment insisté pour que j'écrive, je suis pas assez malléable, vous avez raison, pour céder. Au fond, ceux qui me donnent envie de céder à leur demande, c'est depuis la Fondation Saint-Simon et surtout depuis 91 et l'affaire Boltanski, à partir du moment où se forge au lendemain de la chute de l'Union soviétique, l'idée que toute critique du capitalisme est forcément maintenant réactionnaire et populiste et fascisante, brusquement, mon image dans les médias, dans les médias officiels, alors que j'ai toujours dit la même chose, je cesse d'être un radical anticapitaliste pour devenir un homme qui est dans les Amsel, qui me présente comme un rouge-brun, ou les choses de cet ordre. Quand je vois certaines fois, il y en a eu deux ou trois, un tel degré de mensonge. Alors là, je suis obligé de citer, de toutes les critiques que j'ai eues, ce sont celles que Google choisit de mettre systématiquement après mon nom, sont les critiques d'une certaine Isabelle Garot, qui sont hallucinantes. Non pas tant par le fait que chaque paragraphe contient une erreur historique sur Mauss, Madame de Staël, Proudhon, etc., mais pour vous donner une idée de ce que Google a choisi pour être la critique de mes idées, elle commence à redire, elle a écrit un petit pamphlet sur moi. J'ai écrit ce pamphlet parce qu'au fond, je ne supportais plus de voir Michéa aujourd'hui présent sur tous les plateaux télé. Je ne suis jamais passé à la télé une seule fois. Mais, elle le sait, mais c'était dans les parages du NPA. De toute façon, si on le dit, Michéa, c'est pas quelqu'un qui répond. Il aime pas écrire. Tu peux y aller. Personne ne relèvera les mensonges que tu fais. Elle le fait. Là, à un moment, moi, je sais pas, je regarde rarement Internet, mais il y a un ami qui me dit, tu sais, il y a une folle qui a écrit sur toi des choses hallucinantes, des déformations et autres. Là, je dis, faudrait peut-être. Donc, arrive notre ennemi, le capital, et je vais profiter. Alors, elle a le droit à 7 à 8 scolies. Dans lesquels, pour chacune, je relève un mensonge, une fausseté, quelque chose de bon. Ça l'empêcha d'avoir été choisi comme professeur de classe préparatoire et d'être une des responsables des éditions des œuvres de Marx Engels. Il se peut que lorsqu'elle est dans le milieu strictement mandarinal, elle écrive des choses sérieuses. Mais quand elle écrit sur moi, service commandé, il faut m'abattre. Bon, et là, oui. Quand j'ai reçu de 10 copains, il faut que tu répondes à cette folle parce que un tel degré de mensonge, même Canapa se retourne dans sa tombe, il l'aurait jamais fait à l'époque.
Il faut dire qui était le pauvre Canapa.
Canapa que on a c'était le stalinien type dans la Nouvelle Critique des années 50, mais tous les gens qui l'ont connu nous disent en privé, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire. D'ailleurs, il était un de ceux qui a préparé l'évolution du parti vers la fin de sa vie. Et de toute façon, ma critique de Canapa est un éloge, parce que quand on relit ce qu'écrivaient les Canapas de l'époque, Sartre l'appelait le crétin, mort d'un crétin quand il était... Mais ça n'a rien à voir avec ce que Boltanski a pu écrire sur moi, Isabelle Garot. Et là, pour les trois ou quatre qui franchissent la limite, ben oui, allez, tu me demandes qu'on fasse un livre. Si ça me permet de mettre 7 colis de remise à jour sur les falsifications, je le fais. Mais à part ça, il faut vraiment qu'on ait un pistolet sur la tempe pour me faire écrire un livre ou venir à Paris pour en parler.
Mais le fait d'être édité, le fait malgré tout de voir que vous êtes devenu un auteur alors que vous avez vécu dans les livres, ça doit quand même vous faire quelque chose, une fierté, Jean-Claude Michéa.
Je suis content que les idées que je développais au café avec Martin se développent. Je suis très très ennuyé que on remonte à moi comme origine de ces idées, hein, et que si j'avais écrit sous un pseudonyme, on n'aurait jamais su qui j'étais. Et dans ma vie quotidienne, puisque je vous ai dit ma devise c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Ça n'aurait pas eu d'effet sur ma vie quotidienne. Mais quand vous êtes, après que vous avez fait quelques livres, donc encore une fois, moi j'ai aucun problème pour écrire pour les camarades de la décroissance, pour le site du comptoir, pour les mouvements anarchistes auxquels je suis lié. Là, c'est un acte militant, puis c'est très tranquille ce qu'on fait. Mais quand vous êtes perçu comme un auteur déménageur, pour moi c'est le même statut, vous rencontrez quelqu'un qui vous êtes au café à Montpellier, vous seriez pas Jean-Claude Michéa, si. Et sur quoi vous écrivez actuellement? Alors moi j'écris, j'arrive pas à écrire une carte postale. S'il y a une chose qu'il faut pas me dire, quel est votre prochain livre? Sauf dans la période incroyable où je suis en train d'écrire deux. Et là je me sens... C'est une analyse de réification sartrienne, le garçon de café. Je me sens enfermé dans quelque chose qui n'est absolument pas moi. Je ne suis pas quelqu'un dont le métier est d'écrire. D'abord, j'appelle intellectuel de métier quelqu'un qui est pris dans le « publish or perish ». C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui peut vivre de sa plume, il y en a très peu parce qu'il est devenu tellement célèbre, mais il faut qu'il continue. Et c'est évidemment le principe de base de l'universitaire, puisque c'est la devise de l'universitaire, de l'université, il faut à tout prix publier pour continuer, non seulement à gravir, mais tout simplement à exister dans l'université. Et là, je dis, putain, mais les pauvres, pardon d'avoir parlé comme ça à France Culture, mais je les plains. Sauf qu'apparemment, pour beaucoup, ça les gêne pas. Mais moi, je suis pas du tout quelqu'un qui a besoin d'écrire pour vivre. J'ai au contraire, pour vivre le mieux possible, envie de n'avoir rien à écrire.
Merci Jean-Claude Michéa.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Jean-Claude Michéa. À voix nue. Réalisation Gaël Gillon, prise de son Philippe Mercher, Julien Douminc, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.